mandrin, première partie, chapitre 10. Marié. Vers 2 heures de l'après-midi, les invités commencèrent à arriver au château des Aigles. Étant donné la rapidité avec laquelle il avait tenu à ce que fût célébré son mariage, Bourré d'Hérigny s'était contenté de convier à la cérémonie quelques seigneurs du voisinage, ainsi que plusieurs personnalités dauphinoises qui, d'ailleurs, s'étaient, pour la plupart, empressées d'accourir à son appel. Sur le perron de son château, le fermier général, qui avait revêtu un brillant costume d'apparat, recevait ses invités avec une affabilité bienveillante qui n'était point exempte d'une certaine ironie. En effet, tous ces gens, brusquement arrachés au paisible train-train de leur existence provinciale, n'avaient pas eu le loisir de faire grande toilette, et, pour un Parisien raffiné tel que M. d'Hérigny, leurs costumes démodés, leurs perruques d'un autre âge, ne pouvaient être que le sujet d'intimes et mordantes railleries. Mais le galant financier était beaucoup trop pressé de voir se terminer ce mariage improvisé pour s'attarder à d'aussi futiles détails. Après les salutations d'usage, son fidèle intendant, Fortuné Caboche, s'approchait de lui et d'un air satisfait attaquait. « Ce matin, monsieur le fermier général m'exprimait son vif regret de ne pouvoir offrir à ses invités quelques distractions après le repas, et j'avais invité les villageois des alentours à exécuter en l'honneur des nouveaux époux et de leurs hôtes ces danses locales dans lesquelles ils excellent. Je déplorais de n'avoir pas eu le temps nécessaire d'organiser des réjouissances dignes de votre seigneurie, lorsque la Providence daigna tout à coup nous secourir. Une troupe de jongleurs et montreurs de curiosités vient en effet de se présenter au château et offre à votre seigneurie de lui donner ce soir une représentation extraordinaire. Ces faquins m'ont paru fort drôles et j'ai pensé qu'il vous serait peut-être agréable d'accéder à leurs désirs.
En effet, c'est une idée, accordait Bourré d'Hérigny. Où sont ces drôles ?
Dans l'avant-cour.
Faites-les venir.
L'intendant Caboche se précipita, pour revenir aussitôt, précédant une grossière charrette traînée par un cheval étique. La carriole s'arrêta devant le perron. Le physicien, qui semblait être le directeur de cette étrange société, sauta le premier à terre, imité par ses pensionnaires, qui se mirent à exécuter quelques cabrioles. Guidés par l'intendant Caboche, ils se dirigèrent vers Bourré d'Hérigny, qui contemplait d'un œil amusé cette singulière cohorte. Puis, après s'être incliné 3 fois jusqu'à terre, le physicien attaqua d'une voix aiguë
« Illustre seigneur, je suis le célèbre escamoteur Alcofribas, et voici ma troupe. J'ai appris à Grenoble, où je venais d'avoir un succès triomphal, que vous donniez ce soir une fête dans votre résidence des Aigles, et je suis venu dans l'espoir que vous me permettrez d'exercer mes talents en votre présence et celle de vos invités. Je ne vous demande rien que l'honneur de briller devant vous, car je suis tranquille. Vous serez tellement enthousiasmé de mes tours et du talent de ma compagnie que vous ne manquerez pas de nous combler de vos largesses. »
C'est entendu, consentait le fermier général, que la faconde du physicien, soulignée par une véritable mimique de marionnette, semblait fort divertir.
« Alors, illustrissime seigneur, s'écriait Alcofribas, que je vous présente ma troupe. Voici d'abord le jeune Arlequin, mince, preste, désinvolte, adroit, amoureux et paillard. Le docteur Pantalon, toujours dupé, berné et délicieusement ridicule. Le sémillant Scapin, intrigant, rusé, fourbe et menteur.
Le doux Pierrot, toujours prêt à chanter sa romance à la lune.
L'honnête Scaramouche, toujours battu, toujours trompé, toujours content.
Et enfin, le capitaine Matamor, truculent, jovial, ivrogne, goinfre et toujours de belle humeur.
Tous brûlent du désir de se distinguer devant vous.
« C'est fort bien, » répliquait Bourré d'Érigny. « Caboche, » dit-il, « vous allez donner à boire et à manger à ces gens. Puis vous les conduirez dans l'orangerie où ils attendront l'heure de la représentation. S'ils nous amusent vraiment, ils n'auront point à se plaindre de moi.
« Soyez tranquille, illustrissime seigneur !» lançait Alcofribas d'une voix de ténor légèrement enrouée. « Vous ne regretterez pas votre bienveillance !»
Et tous se confondirent en courbettes, agitant leurs chapeaux en signe d'allégresse. Puis, le fermier général ajouta en s'adressant à son intendant
« Dès que monsieur le curé de Saint-Estève sera arrivé, vous le conduirez à la chapelle et vous viendrez me prévenir aussitôt. »
« Oui, monsieur le fermier général. » Tandis que Prosper Caboche emmenait Alcofribas et sa troupe vers les communs, Bourré d'Érigny rejoignait ses invités dans le grand salon de réception. En même temps, une porte s'ouvrait à deux battants, laissant apparaître, gracieusement enveloppée dans ses longs voiles blancs, Nicole, suivi par M. Malissé, tout guindé en son costume de bourgeois cossu, et l'opulente Thérèse, en robe de gala, rehaussée d'un immense chapeau à plumes. Se penchant vers sa fille, qui, à mesure que la cérémonie approchait, sentait son cœur envahi de nouveau par un découragement voisin du désespoir, Madame Malissé lui murmura « Comment, mademoiselle, vous ne souriez pas davantage au seuil du bonheur ?» Mais Bourré d'Érigny s'empressait galamment vers sa fiancée. Après s'être incliné devant elle, il la prenait par la main et la conduisait au milieu du cercle de ses invités, d'où s'élevait un véritable cœur d'admiration, de flatterie et de louange.
« Quelle est jolie! Quelle est adorable! Quel charme! Quelle grâce! Oh, quelle douceur! Quelle modestie!
« Agénor !» grondait Thérèse à l'oreille de son mari. « Agénor, vous êtes ridicule! Ne vous appuyez pas ainsi sur votre canne! Vous avez l'air d'un Suisse de cathédrale !»
Mais un laquais portant une lettre sur un plateau s'avançait, annonçant
« Un message de monsieur le curé de Saint-Estève. »«
Ah, ça !» tressaillit le fermier général. « Est-ce que ce prêtre me ferait faux bon ?»
Fébrilement, il décacheta la missive et lut ce qui suit. « Monsieur le fermier général, j'ai l'honneur de m'excuser auprès de vous si je ne viens pas bénir votre union. » Malgré mon grand âge et mes nombreuses infirmités, je me faisais une fête de présider cette pieuse cérémonie. Mais la Providence ne l'a pas voulu, et sans doute pour me punir de mes péchés, elle m'a infligé cette nuit une violente crise de rhumatisme qui me cloue sur mon lit de douleur. Ne voulant apporter aucun retard à votre bonheur, j'ai prié mon collègue et ami, le vénérable et discret messire Baptiste Benoît Papelon, des servants de la paroisse de Saint-Hilaire, de bien vouloir me remplacer auprès de vous et de celle que le Seigneur, dans son infinie et touchante bonté, a daigné vous donner pour compagne. En vous renouvelant l'expression de tous mes plus vifs regrets, je vous envoie ma fervente bénédiction et je vous prie de croire à tous mes sentiments de respectueuse amitié en Notre Seigneur Jésus-Christ, Modeste Leclerc, curé doyen de la paroisse de Saint-Estève en Dauphiné, chanoine honoraire du chapitre de Grenoble. » Bourré d'Érigny, satisfait par la lecture de cette lettre, dont les premières lignes lui avaient causé une vive inquiétude, demandait au laquais
« Monsieur le curé de Saint-Hilaire est-il là ?»«
Oui, monsieur le fermier général, il vient d'arriver avec deux autres prêtres, ses vicaires, sans doute.
Je l'ai laissé à la chapelle en train de revêtir ses vêtements sacerdotaux. » Bourré d'Érigny s'approcha aussitôt de Malissé et lui dit « Monsieur, veuillez offrir votre bras à votre fille pour la conduire à l'autel. » Malissé tendit sa main à Nicole, qui, tout en étouffant un profond soupir, y appuya mollement la sienne, et le cortège se mit en marche. Après avoir descendu le perron, il traversa la grande cour aux acclamations des villageois qui se pressaient sur son passage et criaient à plein poumon
« Vive la mariée ! Vive notre maître ! Vive monsieur le fermier général !»
Puis il pénétra dans la chapelle. L'autel, paré de fleurs, étincelait de lumière. Les mariés prirent place devant deux prie-dieu que l'on avait placés dans le chœur, et tandis que Bourré, se retournant, embrassait d'un regard altier l'assistance qui, derrière lui, avait pris place sur les bancs ordinaires, Nicole, s'agenouillant, la tête entre les mains, parut s'absorber dans une fervente prière. En réalité, la pauvre enfant pleurait amèrement. L'espoir qui l'avait un instant animé l'avait entièrement abandonné. Maintenant, c'était bien fini. Tous les beaux rêves qu'avait édifiés son imagination romanesque s'écroulaient lamentablement. Elle était condamnée à appartenir à cet homme détesté, et, prostrée dans sa douleur, elle n'osa même pas demander à Dieu de faire un miracle. Une clochette faisait entendre son tintement argentin. Sortant de la sacristie, le curé de Saint-Hilaire apparut en chasuble, flanqué d'un diacre et d'un sous-diacre, revêtus de leurs dalmatiques. Tous trois, d'un pas hésitant, gagnèrent l'autel devant lequel, péniblement, ils s'agenouillèrent. Dans la tribune, des voix d'enfants s'élevaient, attaquant, accompagnées par le jeu en sourdine d'un petit orgue, la première strophe du Laudate. Le chant liturgique terminé, le curé de Saint-Hilaire se releva et, se tournant vers les futurs conjoints, tout en s'aidant du livre rituel qu'il tenait à la main, il posa, d'une voix cassée et tremblotante, les questions d'usage.
« Monsieur Michel-Pierre-Jean-Antoine Bourré d'Érigny, consentez-vous à prendre pour épouse la demoiselle Nicole-Louise-Françoise Malissé ?»«
Oui, » répondit le fermier général d'une voix vibrante.
« Mademoiselle Nicole-Louise-Françoise Malissé, » poursuivait le prêtre, « consentez-vous à prendre pour époux le sieur Michel-Pierre-Jean-Antoine Bourré d'Érigny ?»
Un oui étouffé, véritable sanglot d'amertume et de regret, s'échappa péniblement des lèvres de la jeune fille. Étendant la main vers un plateau en vermeil, sur lequel étaient déposés les anneaux de mariage, l'officiant les remit aux deux époux. Bourré s'empara de la main de Nicole et passa l'alliance à ce même doigt auquel Mandrin, quelque temps auparavant, avait fait glisser la jolie bague aujourd'hui disparue. Et puis le curé de Saint-Hilaire prononça la formule sacramentelle.
« Michel Bourré d'Érigny et Nicole Malissé, devant Dieu, je vous déclare unis pour toujours. »
Alors un vibrant magnificat retentit sous les voûtes de la chapelle. Le prêtre et ses deux des servants, après s'être inclinés devant l'autel, regagnèrent la sacristie. La cérémonie était terminée. Elle avait à peine duré en tout un quart d'heure. Nicole, appuyant sa main sur celle de son mari, ainsi qu'il était d'usage au XVIIIe siècle, quitta la chapelle aux accents du chant triomphal qui résonnait au fond de son cœur déchiré, ironique écho de sa déchirante tristesse. Et elle se prit à murmurer « Puisque Dieu l'a voulu, ce soir, je serai morte. »